pour que tu lui donnes toute l'assurance nécessaire, que tu le bénisses et que nous-mêmes nous soyons à l'écoute de ta parole, à l'écoute de ta voix, comme j'ai déjà dit, Seigneur, vraiment nous voulons être faire silence devant toi. Merci de bénir Eric en particulier. Amen.
Il est bon de louer le Seigneur, il est bon de chanter à sa gloire. Bonjour à chacune, bonjour à chacun. Ce matin, nous abordons un thème un peu particulier, l'aumône, les impôts, l'esprit. J'avais prévu 20 minutes pour l'aumône, c'est venu se rajouter les impôts, plus l'esprit. Vous voyez ce qui vous attend ? Alors ne vous étonnez pas si mon message n'est pas ordré de cette façon-là, tout sera un petit peu imbriqué. Si jamais je n'arrivais pas au bout de mon message, je vous en donne déjà les conclusions. Soyez généreux dans les aumônes, payez vos impôts et soyez dans la joie. Dans tout cela, vous avez ainsi le message qui est donné. Si j'ai mis tout bienfait et tout bon parfait viennent d'en haut du Père des Lumières chez lequel il n'y a ni changement ni ombre de variation, c'est simplement pour attirer notre attention sur que quand nous voyons l'action de Dieu, nous sommes parfois surpris et nous croyons que Dieu change. En fait, souvent, son changement, c'est lié à l'interaction avec nous-mêmes. Mais Dieu ne change pas. Dieu a une ligne et il garde continuellement cette ligne. Et c'est nous qui changeons et Dieu va essayer de nous ramener dans cette ligne. Et c'est une des raisons pour lesquelles parfois nous croyons que c'est lui qui change. Et vous verrez au travers de mon message qu'on a l'impression parfois que Dieu change. Mais en fait, c'est en interaction avec nous. Alors, si nous prenons les aumônes, ben, vous savez ce que c'est donner de l'argent ou autre chose à des personnes qui en manquent, à des personnes qui ont des besoins. Si nous prenons cette question, moi, j'aimerais vous poser une petite question par rapport aux aumônes. Quand vous vous promenez dans les rues de Lausanne, au centre de Lausanne, comment réagissez-vous par rapport aux mendiants ? Un humoriste disait « Avant, je mettais 10 minutes pour aller à mon bureau. Maintenant, je mets 20 minutes. J'évite toutes les rues où il y a des mendiants. » Alors, je ne sais pas si vous avez, vous, des réponses par rapport à ce problème. Moi, je n'en ai pas. Donc, je ne vais pas pouvoir vous donner des réponses par rapport à ce type de situation, mais peut-être quelques pistes de réflexion. L'aumône fait partie des actes religieux. C'est faire sa justice pour les Juifs. L'aumône, c'est avec d'autres aspects de la vie religieuse, s'essayer de s'attirer les bienfaits de Dieu. Pour les Juifs, il y avait dans les actes religieux ces trois éléments, l'aumône, la prière et le jeûne. Chez les musulmans, on trouve les cinq piliers de la foi, la confession de foi, la prière, le jeûne, les aumônes et le pèlerinage à la Mecque. Vous voyez qu'on retrouve certains éléments qui sont communs aux deux religions. Pour les chrétiens, quels sont les actes religieux pour attirer la miséricorde de Dieu, pour attirer les bienfaits de Dieu, pour satisfaire la justice de Dieu ? bien, je crois qu'il n'y en a pas. Il n'y a aucun acte religieux. Seul Jésus peut nous justifier devant Dieu. Uniquement Jésus. La croix de Jésus. Mais Jésus. La croix, c'est un événement parmi d'autres. Mais c'est la vie de Jésus. C'est la croix de Jésus. C'est la résurrection de Jésus. Et c'est l'élévation de Jésus qui sont notre justice. C'est cet ensemble de choses. Je me suis posé quand même une question par rapport aux aumônes. Est-ce que Dieu aime les aumônes? Est-ce que Dieu fondamentalement aime l'aumône? Je ne sais pas ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez que Dieu fondamentalement aime l'aumône? Ah, on manque d'énergie. Merci. Ah oui, j'entendais bien que le son partait, s'arrêtait, etc. Je vois que c'est réparé, merci la technique. Ils ont des piles de rechange, c'est une bonne chose. Voilà, je vais poser la question, est-ce que Dieu aime les aumônes? Est-ce que Dieu aime l'aumône? Moi, je me suis dit, mais bien sûr, Dieu aime l'aumône, fondamentalement parlant. Et puis, je me suis rendu compte que ce n'était pas le cas. À quelque part, Dieu n'aime pas l'aumône. Qu'est-ce qui justifie cette réaction de ma part, ou cette compréhension de Dieu? Mais j'ai cherché ce mot dans l'Ancien Testament. J'ai cherché le mot aumône dans l'Ancien Testament, il ne s'y trouve pas. En tout cas, pas sous cette forme-là, la forme que nous connaissons. D'autre part, la mendicité, dans la Bible, a une connotation plutôt négative. Et puis, Dieu est un utopiste. Il est un utopiste parce que voilà ce qu'il nous dit dans Deutéronome 15, 4 à 6. Toutefois, il n'y aura point d'indigents chez toi, car l'Éternel te bénira dans le pays que l'Éternel ton Dieu te fera posséder en héritage. Pourvu seulement que tu obéisses à la voix de l'Éternel ton Dieu, en mettant soigneusement en pratique tous ces commandements que je te prescris. Aujourd'hui, que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu te bénira, comme il te l'a dit. Tu prêteras à beaucoup de nations et tu n'emprunteras point. Tu domineras sur beaucoup de nations et elles ne domineront point sur toi. Dieu pense qu'il n'y aura pas de pauvres. Dieu pense qu'il n'y aura pas d'indigents dans son pays, dans Israël. Dieu est certain que ces choses ne se passeront pas ainsi. Les pauvres ne seront pas en Israël. Parce qu'il a mis en place des choses importantes, des choses intéressantes. Et nous verrons cela un petit peu plus tard. Donc s'il n'y a pas de pauvres, il n'y a pas d'aumône. Dieu aime tellement les pauvres qu'il ne veut pas qu'il y en ait. Il aime les pauvres, mais il n'aime pas la pauvreté. Mais Dieu est utopiste pendant juste quelques versets. Rapidement, il va changer. Il y aura toujours des indigents. C'est dans le même chapitre, quelques versets plus loin. Il y aura toujours des indigents dans le pays. C'est pourquoi je te donne ce commandement. Tu ouvriras ta main à ton frère, aux pauvres et à l'indigent dans ton pays. Dieu se résigne face à la faiblesse humaine. C'est un peu comme si Dieu disait, quand je regarde ce que je mets en place, ce que je donne, il n'y aura pas de pauvres. Mais quand je regarde les humains et leur façon de faire et d'être, il y aura des pauvres. Dieu se résigne. Et puis, on découvre ainsi que la mendicité est une image de la société malade, d'une société qui produit la pauvreté. Ce n'est pas le mendiant qui est le coupable, sauf bien sûr s'il est fainéant ou s'il simule un problème de santé. Les responsables, c'est ceux qui produisent la pauvreté. Dans la Bible, à la place du mot « aumône », on va trouver d'autres mots qui parfois ont été traduits dans cette version par « aumône ». On va trouver des mots comme « justice », « vérité », « bonté ». Ces mots-là sont les mots de la maladie de nos sociétés. À la place de la justice, on va trouver l'injustice. À la place de la vérité, on va trouver le mensonge et on va trouver la corruption. Et à la place de la bonté, on va trouver l'égoïsme. Si vous regardez les sociétés, les pays dans lesquels la pauvreté grandit, vous verrez que plus la justice, plus la bonté, plus la vérité sont écartés, sont éliminés, plus ces éléments sont transformés, plus la pauvreté va augmenter. Mais quel est le cœur de Dieu par rapport à la pauvreté? C'est dans le psaume 146 que nous lisons ceci. « Il fait droit aux opprimés, il donne du pain aux affamés. L'Éternel délivre les captifs, l'Éternel ouvre les yeux des aveugles, l'Éternel redresse ceux qui sont courbés. L'Éternel aime les justes, l'Éternel protège les étrangers, il soutient l'orphelin et la veuve, mais il renverse la voie des méchants. L'Éternel règne éternellement, ton Dieu, ô Sion, subsiste d'âge en âge. Louez l'Éternel. » On a lu ce psaume en bas de notre église. Et quelqu'un disait, quelle carte de visite de Dieu! Un Dieu qui donne du pain aux affamés. Un Dieu qui soutient l'orphelin et la veuve. L'orphelin et la veuve, dans les sociétés antiques, c'était les pauvres, mais aussi les gens fragiles. C'est le prototype même de la personne qu'il faut aider, soutenir, protéger. Mais si je fais lire ce texte à mon frère Jacques, mon frère Jacques n'est pas croyant. C'est un homme qui se base sur les faits, qui raisonne. Si je fais lire ce texte à mon frère, il va me dire, « Mais tu crois ça, toi? Tu crois ce genre de choses? Mais tu es naïf? Dieu aussi s'occupe des affamés. Pourquoi tant de famine dans le monde? Mais enfin, ouvre les yeux, Eric. Je comprends pourquoi parfois on dit que les chrétiens sont naïfs et que la foi englobe tout ce qu'on ne comprend pas. Alors qu'est-ce que Dieu a mis en place s'il a un cœur pour les pauvres? Eh bien, il a mis en place quelque chose d'impressionnant, une loi. Il a mis une loi en Israël. Je rappelle qu'Israël, c'est le premier royaume de Dieu sur la terre. Après la chute. Et une loi qui est fabuleuse. Une loi qui prend soin des pauvres. Et je vais vous montrer deux, trois éléments de cette loi pour voir comment Dieu s'y prend pour déléguer à son peuple le soin de prendre soin des pauvres. Tout d'abord, il y avait des dîmes qui étaient faites pour les pauvres. La troisième et la sixième année, vous savez que le temps était partagé en septennat, c'est-à-dire en tranches de sept ans. Et dans ces tranches de sept ans, eh bien, il y avait des dîmes qui étaient données, la troisième et la sixième année. Et ces dîmes ensuite étaient distribuées aux pauvres sous forme de nourriture et de vêtements. Et ainsi, on assurait le minimum vital des pauvres. Les pauvres pouvaient faire des emprunts. Vous connaissez ce dicton qui dit « On ne prête qu'aux riches ». Dernièrement, j'ai un ami qui revenait de Grèce qui m'a dit « Les nations européennes devraient connaître la Bible parce qu'on ne prête pas aux pauvres ». Je dis « Ah bon ? On ne prête pas aux pauvres ?» Non, on ne prête pas aux pauvres. Aux pauvres, on donne. Et si on donnait à la Grèce, peut-être qu'ils s'en sortiraient. Et je dis « Non, non, la Bible, elle ne dit pas forcément qu'on... Oui, on peut donner, mais elle est beaucoup plus subtile que cela. » Et ce système d'emprunt qui permettait à des gens qui peut-être avaient eu un problème business ou je ne sais quoi et qui tout d'un coup se trouvaient sans argent, de faire un emprunt auprès d'un frère de foi juive, et cet emprunt était particulier. Il fallait le rendre, bien sûr, mais la septième année de l'emprunt, la dette était effacée. Ce qui veut dire que la personne qui prêtait l'argent savait que ça pouvait être un prêt comme un don. Et la personne qui recevait cet argent pouvait rebondir avec cet argent si elle avait la fierté, la force et l'énergie de rebondir pour essayer de rendre cet argent. Et si elle n'y arrivait pas, la dette était effacée. C'est une redistribution des richesses. Il y avait la possibilité de se vendre comme esclave. Quand on entend cela, on se dit « Ouh là là, c'est une connotation négative, se vendre comme esclave, c'est pas possible. » Mais en Israël, les esclaves n'étaient pas traités de la même façon qu'ailleurs. En tout cas, pas les esclaves juifs qui étaient pris dans des familles juives. L'esclave était traité comme un ouvrier salarié. La septième année, il pouvait repartir. Ça représente un petit peu un CDD, un contrat à durée déterminée, si vous voulez. Il n'avait pas de quoi vivre, eh bien, il était pris en charge par une famille qui le nourrissait, l'habillait, etc. Pendant 7 ans. La septième année, il pouvait s'en aller, mais ne s'en allait pas à vide. Il fallait lui donner des biens. Pourquoi ? Parce qu'il avait, pendant ce temps de travail, il avait procuré des bénéfices à cette famille à laquelle il avait travaillé, et il y avait ainsi une participation aux bénéfices. Il ne partait pas vide, il pouvait redémarrer quelque part. Et puis, vous savez qu'il y a encore glanage et grappillage. Les pauvres pouvaient aller derrière les moissonneurs, ramasser ce que les moissonneurs n'avaient pas ramassé, et puis les propriétaires devaient laisser le coin des champs non moissonné, et c'était laissé aux pauvres. Le grappillage, toute grappe qui tombait de raisin, toute grappe de raisin qui tombait, ne pouvait pas être ramassée, c'était laissé pour les pauvres, et si on avait oublié du raisin, eh bien c'était laissé pour les pauvres. Et puis tous les 7 ans, on laissait les champs aux friches. Et bien sûr que si l'année d'avant, les années d'avant, il y avait eu du blé qui avait été semé, eh bien, cette année-là, cette septième année, il y avait forcément du blé qui poussait, et ce blé était alors laissé aux pauvres. Voilà comment Dieu a mis en place une loi. Je donne certains éléments, les principaux. Une loi pour prendre soin des pauvres. Je ne mets pas de côté aussi le fait que Dieu transcende parfois sa loi. On a plein de témoignages bibliques qui nous montrent que parfois, de manière miraculeuse, Dieu a pourvu aux besoins de pauvres. Et si on demandait ici dans cette assemblée si certains ont expérimenté ce genre de choses, je pense que certains diraient oui. Parfois, j'avais des besoins et miraculeusement, Dieu y a répondu. Et c'est un... Vous voyez que le système que Dieu a mis en place est un système qui pourvoit en respectant la dignité humaine. Moi, je connais un pays qui a mis quelque chose en place qui ressemble un peu à cela. C'est un pays moderne, industrialisé. On ne parle plus de dîmes, On ne parle plus de se vendre comme esclave, on ne parle plus de glanage ou de grappillage. Oh, dans ce pays, tout n'est pas parfait. Il y a aussi des abus, il y a tout ce qu'on veut. Mais chacun a droit à un minimum vital. Comme en Israël, selon les lois de l'Éternel. Que ce soit les pauvres, que ce soit les invalides, que ce soit les personnes âgées, les personnes en difficulté sociale, chacun a droit au minimum vital dans ce pays. Et ce n'est pas une aumône, c'est un droit. Des entreprises grappillent du travail, ce travail qu'elles grappillent, elles le sous-traitent dans des ateliers protégés qui permettent à des personnes à capacité réduite de travailler, ce qui leur permet de garder une dignité, une identité professionnelle, des relations de collègues. Des entreprises engagent aussi des personnes à capacité réduite. Et ces entreprises glanent du travail que ces personnes peuvent faire, et occupent ces personnes. Dans ce pays, il n'y a plus de mendicité. La pauvreté avait presque entièrement disparu, en tout cas la pauvreté, comme la Bible nous la présente, c'est-à-dire des affamés, des gens qui n'ont pas tous les jours à manger. Dans ce pays, ça avait disparu. Un humoriste disait, dans ce pays, le pauvre, c'est celui qui lave lui-même sa voiture. Dans ce pays, on ne parle pas de dîmes, bien sûr. On ne parle pas de laisser le coin des champs. Mais on parle d'assurance sociale, on parle d'impôts. C'est ainsi que c'est système social qui permet de prendre soin des pauvres. Voilà ce que dit Paul à ce sujet, au sujet des impôts. Rendez à tous ce qui leur est dû, l'impôt à qui vous devez l'impôt, le tribut à qui vous devez le tribut, la crainte à qui vous devez la crainte, l'honneur à qui vous devez l'honneur. Lorsque Paul écrit cela, et demande aux chrétiens de payer leurs impôts. Il est dans un pays qui est envahi, il écrit ça aux Romains, et l'argent qui est collecté par les impôts et par les taxes ne sera pas forcément destiné aux pauvres. Ça sera destiné une grande partie, pour une grande partie, à l'armée romaine, aux envahisseurs, et une petite partie, ce qui sera donné au temple, sera destiné aux pauvres. Et quand il écrit cela, vous imaginez le serrement de cœur qu'il y avait en lui, sachant qu'il demandait de payer les impôts, les taxes et autres, alors qu'une grande partie partait pour l'armée envahissante et envahisseuse. Qu'est-ce qui poussait Paul à parler ainsi ? Bien, Paul avait cette notion qu'il nous communique, c'est que toute autorité est instituée par Dieu et que nous devons nous soumettre à toute autorité. Ça, c'est un des premiers points qu'il nous donne. Le deuxième point qu'il donne aussi, c'est que nous avons à être en paix sur tous les points qui ne sont pas chrétiens. Les seuls endroits où nous pourrions avoir des problèmes, des difficultés, de la persécution, c'est au sujet de notre foi chrétienne, de notre témoignage chrétien, de l'évangélisation. Mais pas de problème à cause de l'argent. Paul demande qu'on soit en paix, à ce sujet-là. Pour qu'il n'y ait pas de pauvres en Israël, si nous revenons à l'idée d'Israël, il fallait deux éléments. Deux éléments étaient nécessaires. Le premier élément, c'est qu'Israël obéisse à la loi de l'Éternel. Et le deuxième élément, c'est qu'il y ait une agriculture qui fonctionne bien. Et Dieu dit simplement, « Toi, Israël, tu obéis à ma loi, et moi, je bénis ton agriculture. Je te donne ce qu'il faut. » Malheureusement, Israël n'a pas forcément obéi. Aux désobéissances, Dieu a répondu en envoyant les prophètes qui ont essayé continuellement de ramener Israël. Et sont venus s'ajouter à cette désobéissance les querelles internes, les guerres et catastrophes naturelles. Et au temps de Jésus, on va rencontrer beaucoup de pauvres en Israël. Dieu s'adapte et il approuve l'aumône car il veut prendre soin des pauvres. Et c'est là que nous trouvons ce texte de Matthieu. Gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes pour en être vu, autrement vous n'aurez point de récompense auprès de votre Père qui est dans les cieux. Lors donc que tu fais l'aumône, ne sonne pas de la trompette devant toi comme font les hypocrites dans les synagogues et dans les rues, afin d'être glorifiés par les hommes. Je vous dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta droite, afin que ton aumône se fasse en secret, et ton Père qui voit en secret te le rendra. À quoi servent les pauvres ? Je travaillais dans un autre canton que le canton de Vaud, et je démarrais mon activité professionnelle dans la réinsertion professionnelle, et je suis allé trouver le directeur des services sociaux de ce canton. Je lui exposais ce que j'allais faire comme travail, il m'a demandé ma stratégie, je lui ai expliqué ma stratégie, puis il m'a dit, mais si je comprends bien, vous voulez aider les pauvres, entre guillemets, les gens qui ont des difficultés à retrouver un emploi. J'ai dit, c'est ça. Il m'a dit, mais monsieur, vous n'allez pas y arriver dans ce canton. J'ai dit, ah bon ? Pourquoi ? Il m'a dit, parce que les professionnels du social, ils s'accrochent à leurs pauvres. C'est leur gagne-pain. Dans le Nouveau Testament, l'aumône n'est pas seulement donner de l'argent aux pauvres de manière directe. C'est tout acte de miséricorde. On peut le prendre au sens large. Le bénévolat, le soutien à des personnes, l'aide de tout genre, sous forme d'argent, de formation, de nourriture, de soins, etc. L'aumône peut prendre un peu toute cette dimension-là. Mais à l'époque de Jésus, l'aumône avait pris vraiment ce sens religieux dont je vous parlais tout au début du message. Et pour certains, elle servait à faire valoir auprès des gens et auprès de Dieu, à se faire valoir, à montrer ce dont ils étaient capables, ce qu'ils pouvaient faire pour le prochain et pour Dieu. En fait, ils cherchaient à recevoir plus de bénéfices que ce qu'ils donnaient. Et Jésus soulève ici deux risques de l'aumône. Un bénéfice public, ne pas sonner de la trompette. Alors qu'est-ce que Jésus a voulu dire par ne pas sonner de la trompette ? Est-ce que vraiment les gens sonnaient de la trompette ? Certains commentateurs vont dire qu'effectivement, lors de certaines cérémonies au temple, au moment de la trompette, au moment de la collecte, des gens sonnaient de la trompette pour annoncer cette collecte. C'est un petit peu comme si on ouvrait les portes de Villard dans un moment et qu'on dise « on va faire la collecte pour les pauvres » et que l'on crie ça dehors. Pour d'autres, il s'agit de riches qui venaient à Jérusalem et qui sonnaient de la trompette pour rassembler les pauvres et pour annoncer distribution. Donc ça servait à deux choses en même temps. Rassembler les pauvres et annoncer « je fais une distribution, regardez combien je suis généreux ». Et Jésus dit que non, on ne peut pas faire cela. Pour certains interprètes de l'Écriture, Jésus parle de ces trompettes pour dire de façon exagérée l'hypocrisie qu'il peut y avoir dans le cœur de l'homme. En fait, ce qu'il est en train de nous dire, que l'aumône ne doit pas être faite pour être vue des hommes. Elle peut être vue par Dieu. Et il ne peut pas y avoir deux récompenses. Soit nous avons celle des hommes, soit nous avons celle de Dieu. Mais nous ne pouvons pas avoir comme récompense la récompense de Dieu et la récompense des hommes. Et puis, il y a le bénéfice personnel. Il y a la main droite qui donne, et puis la main gauche qui ne doit pas savoir que la main droite a donné. Alors pour certains, bien sûr, il y a eu cette idée de dire ben la main droite, c'est la main du cœur, elle donne sans calcul, et l'autre main, c'est la main de la raison qui calcule. Alors l'une ne doit pas savoir ce que fait l'autre. Mais le contexte semble nous montrer les choses un petit peu différemment. On va rencontrer plutôt la main droite, qui est la main qui donne, et la main gauche, qui sera plutôt celle qui reçoit. La main qui donne, que chacun donne comme il l'a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Voilà ce que Paul écrit aux Corinthiens lors d'une collecte. Il leur dit la chose suivante. Il leur dit, lorsque vous voulez donner, soyez libres. Décidez dans votre cœur. Le cœur, ici, n'est pas le centre des émotions. Mais le cœur, ici, c'est le centre de la décision, de la volonté. Je fais ce choix de donner et de donner telle somme. C'est un choix que je fais. Un choix sans contrainte. Il ne doit pas y avoir de contrainte extérieure qui pourrait venir. Et chacun de nous est habilité à savoir ce que peut être une contrainte pour lui. Parfois, ça peut être lorsque vous êtes dans une réunion super, et puis à la fin, il y a la collecte, et puis vous sentez qu'il y a une pression importante qui est faite pour la collecte, une telle pression qui amène un malaise. À ce moment-là, on peut se dire, est-ce qu'il y a une contrainte extérieure? Et puis, Paul dit aussi, sans tristesse, d'autres ont traduit sans regret. Je pense qu'il ne doit pas y avoir de conflit intérieur. Lorsqu'on décide de donner, pas de contrainte extérieure, pas de conflit intérieur. Pas se dire, est-ce que je donne, est-ce que je donne pas, est-ce que je donne trop, est-ce que je donne pas assez. Non. Paul écarte ce genre de choses et dit, donne avec joie. Et l'exemple qu'il va prendre, c'est l'exemple de Jésus. Lui, de riche qu'il était, s'est fait pauvre afin d'en enrichir beaucoup. La main qui reçoit, elle cherche, elle, aussi son bénéfice. Elle cherche à se racheter ou à racheter sa conscience, à se déculpabiliser. Lorsque c'est le vieil homme, lorsque c'est l'homme sans Dieu qui réfléchit à donner, elle se met en action. Quelqu'un disait la chose suivante, dans la plupart des religions, l'aumône est considérée comme une offrande à Dieu. Elle sert à libérer celui qui l'offre du péché et à compenser ses mauvaises actions de façon à ne pas souffrir des remords de conscience. L'aumône, le don, le cadeau, l'aide que l'on apporte n'a pas ce sens-là pour le chrétien. La main gauche, la main qui reçoit, ne reçoit rien. Elle ne se valorise pas non plus. Elle n'est pas là pour faire des choses, donner des choses et se valoriser. Ni pour prendre autorité. Parfois nous disons, quand celui qui paye commande, on voit parfois des œuvres qui reçoivent de l'argent et des gens qui veulent s'immiscer dans une œuvre parce qu'ils ont donné beaucoup d'argent. Non, nous n'avons pas à prendre autorité lorsque nous donnons de l'argent. Nous donnons, point final. C'est la personne qui reçoit qui devient responsable de ce qu'elle en fera. Rechercher la reconnaissance, je crois que la reconnaissance est nécessaire, mais celui qui donne pour recevoir de la reconnaissance va être déçu. Et Dieu nous demande de ne pas rechercher la reconnaissance. Et on peut continuer, ce que la main qui reçoit, la main gauche qui reçoit, on peut continuer en se posant ces questions. Si personne ne voyait, vous ne savez tout ce que je fais bénévolement et tout ce que je donne. Est-ce que je le ferai? Quels sont les bénéfices que je tire dessous de tout ce que je donne ou fais? En fait, Jésus supprime de l'aumône ce que la mauvaise religion y met. L'aumône n'est pas une monnaie d'échange vis-à-vis de Dieu. L'aumône n'est pas là pour nous purifier, ni pour purifier notre conscience. Et puis, elle ne sert pas à nous valoriser. Elle peut être vue des hommes, mais ne se fait pas pour être vue. Elle se décide dans le cœur sans contrainte. Elle se fait avec joie et sans regret. Jésus transforme l'aumône en acte de justice sociale, c'est-à-dire que celui qui a trop donne à celui qui n'a pas assez. Et la personne qui reçoit l'aumône reçoit en même temps une image de la bonté de Dieu. Amen.